La 7 vous offre l'heure.
À Radio Rythme Bleu, il est 6h30.
La 7, c'est 6 magasins pour vous accompagner dans tous vos projets. Construire, rénover, aménager. Retrouvez nos bons plans sur Facebook ou sur 7.nc.
Info matin, Nicolas Legrand.
Il faut poursuivre les discussions sur l'accord de Bougival qui est la voie du compromis. Les mots de Naïma Moutchou qui déclare que les groupes politiques devront faire part de leur ligne rouge le 16 janvier prochain à l'invitation du président de la République à l'Élysée. Rigueur, c'est le mot d'ordre du budget de la Nouvelle-Calédonie. Il a été adopté hier au gouvernement. Seul Petelo Sao s'est abstenu. Le budget sera donc présenté fin janvier, début février au Congrès. L'actualité internationale est Donald Trump qui étudie la possibilité d'acheter le Groenland. Annonce de la porte-parole de la Maison-Blanche qui refuse toujours d'exclure l'option d'une intervention militaire dans ce territoire stratégique du Danemark. L'actualité politique en métropole est Bruno Retailleau qui faisait sa rentrée hier soir pour nous. Le but était de clarifier les lignes économiques des Républicains. Le sport du tennis et 5 des 8 têtes de série sont au rendez-vous pour les quarts de finale du Challenger de Nouméa. Les rencontres débuteront à 16h30 sur les cours du Wentoro aujourd'hui. La météo en Nouvelle-Calédonie, le temps évolue peu avec un ciel assez nuageux aux Loyautés et sur l'extrême sud avec de rares averses. Ailleurs, le soleil domine. Quant aux températures de la journée, elles augmentent de nouveau, souvent autour de 30 degrés et jusqu'à 33 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'avenir institutionnel.
Oui, dans 8 jours, Emmanuel Macron recevra les formations politiques calédoniennes à l'Élysée. 6 mois après le sommet sur la Nouvelle-Calédonie et le conclave de Bougival, qui ont donc conduit à la signature d'un accord, le président de la République souhaite de nouveau réunir les partenaires calédoniens. Et la nuit dernière, le sénateur Georges Naturel a interpellé la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou lors de la séance des questions au gouvernement.
Le 16 janvier prochain, le président de la République réunira une seconde fois à l'Élysée les élus calédoniens pour un nouveau temps d'échange. 6 mois après le sommet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et l'accord de Bougival du 12 juillet dernier, nous sommes malheureusement aujourd'hui encore dans une situation de blocage. L'économie calédonienne se meurt, les Calédoniens n'en peuvent plus de cette situation d'incertitude. Les tergiversations des responsables indépendantistes ainsi que l'instabilité politique nationale ne vous facilite certes pas la tâche, mais vous avez l'obligation de sortir la Nouvelle-Calédonie de cette impasse. Après l'échec de votre surprenante initiative de consultation anticipée, nous sommes confrontés à la date butoir du 28 juin prochain pour la tenue des élections provinciales. Un quatrième report de la date de ces élections au-delà du 28 juin ne sera ni possible ni souhaitable. Le Conseil d'État a été clair sur ce sujet.
Georges Naturel qui rappelle donc qu'il ne reste que 6 mois pour organiser les élections provinciales.
Les Calédoniens attendent de la part de l'État des positions claires, sincères et réalistes. Croyez-vous sincèrement, Madame la Ministre, qu'il est réaliste et possible, dans ce délai si court, de modifier la Constitution, d'organiser la consultation référendaire des Calédoniens, de faire adopter une loi organique, de mettre à jour les listes électorales spéciales et de tenir les élections provinciales au plus tard le 28 juin ? Ne croyez-vous pas qu'il serait plus sincère et réaliste de la part du gouvernement de prendre acte dès à présent de cette impossibilité ?
Et dans sa réponse, Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer, estime que malgré les difficultés énumérées, il faut poursuivre le dialogue sur l'accord de Bougival qui est, dit-elle, la voie du compromis.
Vous évoquez un empilement de contraintes juridiques, constitutionnelles, électorales. C'est vrai, elles existent. Je ne les ai jamais niées. Il y a un cadre qui a été posé notamment par le Conseil d'État avec une date butoir et je m'y conforme. Mais gouverner, ça ne peut pas être faire le constat des obstacles qui existent et se mettre en pause. Gouverner dans l'intérêt des Calédoniens, c'est précisément aller chercher des solutions et aller chercher ce fameux chemin, même s'il est étroit, même s'il est difficile. Voilà pourquoi, après le vote partagé du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur ce projet de loi de consultation à l'accord de Bougival, le président de la République a fait un choix clair, qui est celui de la continuité du dialogue, qui est celui de la poursuite des discussions. Et donc nous recevrons le 16 janvier prochain, l'ensemble des forces calédoniennes à l'Élysée, en présence du Premier ministre, en présence de votre serviteur. Et puis nous poursuivrons la discussion sur ce fameux accord de Bougival, qui est la voie du compromis.
La ministre des Outre-mer qui assure que l'État fera sa part pour que le processus puisse aboutir dans le respect du droit.
Chacun devra à ce moment-là se positionner. Chacun devra dire ce qu'il accepte, ce qu'il refuse, ce qu'il est prêt à assumer aussi vis-à-vis des Calédoniens. Et à partir de là, c'est pas un grand théâtre de paroles qui est prévu. Ce que nous voulons, c'est bien à la fin décider et trancher. Et nous le ferons ensemble, monsieur le sénateur, et je veux vous rassurer, dans le respect de la loi, dans le respect du droit, à partir du moment où un consensus se dégage, ce que vous avez évoqué comme étant des freins, des obstacles, le calendrier en particulier, ce ne sont pas des fatalités. Si un accord politique partagé, solide, peut être trouvé à l'issue de ces discussions à partir du 16 janvier prochain, je peux vous dire que l'État fera sa part pour que le processus puisse aboutir.
Et je rappelle donc que le président de la République a écrit aux formations politiques calédoniennes pour les inviter à l'Élysée le 16 janvier prochain. Toujours dans l'actualité parlementaire qui concerne la Nouvelle-Calédonie, je rappelle qu'une délégation de 10 députés Ensemble pour la République, c'est-à-dire le camp présidentiel, est actuellement sur le territoire. Hier, à Bouloupari, leur journée était dédiée à l'agriculture. À Bouraké, ils ont visité l'exploitation d'élevage bovin de Karl-Heinz Grenier.
Pour nous, c'est quand même bien qu'il y ait noir la réalité ici des choses. Comment que ça se passe en Calédonie? Je leur ai fait découvrir d'abord l'élevage bovin, la production bovine qu'on a sur la propriété avec Vastinal, c'est la boucherie qu'il y a dans le village. Je leur ai expliqué un peu comment la vie d'éleveur se passe. On a fait un barbecue dans de la viande de cerf. Il vaut mieux qu'il y ait des gens qui parlent de nous en France, qui savent de quoi qu'ils parlent, que d'être assis sur une chaise et puis d'avoir vu des photos.
Et après cela, les députés ont rencontré le président du gouvernement, Alcide Ponga, et le haut-commissaire Jacques Billan. Aujourd'hui, c'est une journée tournée vers l'économie, et notamment le nickel, avec une visite de la SLN à Doniambo, puis de Vega et Biscochoc. Au cours de la journée, les élus déjeuneront notamment avec Sonia Lagarde, maire de Nouméa, et visiteront aussi la prison. Avant cela, ce matin, eh bien, nous recevrons à 7h30 sur Radio Rythme Bleu, Marie Lebec, députée Ensemble pour la République des Yvelines, ancienne ministre des Relations avec le Parlement, et son collègue de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf, député de la première circonscription. Avec nos deux invités du matin, nous verrons comment se déroule cette mission, quel sera son rôle une fois rentré à Paris, et comment les députés comptent-ils accompagner la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Rendez-vous donc tout à l'heure à 7h30.
À Radio Rythme Bleu, 6h37.
Le budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie, adopté hier par les membres du gouvernement, il sera examiné par les élus du Congrès d'ici quelques semaines. Un budget qui s'élève, Léo Fichou, à 101 milliards de francs.
Oui, selon l'exécutif, ce calendrier particulièrement rapide témoigne de l'efficacité de la méthode de concertation mise en place, associant étroitement les membres du gouvernement, les groupes politiques ainsi que l'ensemble des institutions concernées. Le gouvernement présentera donc un budget avec un mot d'ordre, la rigueur pour faire face à la crise. L'exécutif a annoncé des efforts d'économie concernant les dépenses publiques, notamment sur la masse salariale de la collectivité, mais aussi la réduction de 75% des frais de mission hors du territoire. Le gouvernement a tout de même maintenu des investissements clés, notamment dans le secteur du tourisme, mais aussi de la jeunesse, et pour continuer de favoriser aussi la relance économique. Christopher Gigès, porte-parole de l'exécutif.
On est sur un budget de rigueur, mais on est aussi sur un budget de relance. Déjà, on est sur un budget qui est voté quasiment à l'unanimité des membres du gouvernement avec une abstention. On est sur un budget qui est de 3 milliards supérieur à 2025, mais avec un budget d'investissement qui augmente considérablement de 7 à 9 milliards et avec des actions à la fois de relance économique, de priorisation sur la jeunesse calédonienne et tout ça financé notamment par des économies qu'on fait sur la masse salariale, sur nos établissements, sur certaines dépenses qu'on a surplus aujourd'hui.
Un budget adopté rapidement donc par le gouvernement dès sa première présentation en séance collégiale. Il prévoit notamment 6 milliards de francs pour garantir la pérennité du RUAM, mais aussi 2 milliards de francs dédiés au financement des retraites. Les comptes sociaux demeurent un sujet de préoccupation majeure, selon Christopher Gigès.
On continue à travailler sur le régime de retraite. On a inscrit dans ce budget 2 milliards pour les retraites, environ 6 milliards pour le RUAM, mais c'est pas suffisant. Il y a un besoin entre 6 et 7 milliards sur le régime de retraite. On travaille activement avec les partenaires sociaux et avec les groupes politiques pour trouver des solutions, mais on devra avancer sur des réformes parce que 2 milliards, ça sera pas suffisant. On a des pistes sur l'augmentation de la durée de cotisation, sur d'autres sujets. C'est des sujets qui doivent être abordés de manière assez sereine avec les partenaires sociaux. Pour qu'on trouve un consensus qui permette de sauver le régime de retraite en Nouvelle-Calédonie.
Un budget propre, adopté quasiment à l'unanimité de ses membres, donc à l'exception de Petelo Sao de l'éveil océanien qui s'est abstenu en attendant la réponse de l'État concernant les prêts accordés au territoire. Sur ce sujet, les discussions vont justement se poursuivre dès la semaine prochaine à Paris. En attendant, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de la fiscalité, a décidé de supprimer un certain nombre d'exonérations fiscales qui étaient jusqu'à présent accordées à l'État.
Aujourd'hui, on est encore en cours de discussion avec l'État. On n'a pas encore de réponse officielle sur la question. Pour l'instant, on est plus sur une réponse négative de la part de l'État sur un report des prêts. Donc, on a dû prendre des décisions pour équilibrer notre budget. Donc, on a proposé une suppression des exonérations qui sont accordées à l'État, donc pour un montant d'environ 2 milliards. Mais je dis, le dialogue continue avec à la fois avec la mission interministérielle, mais également avec les représentants du Premier ministre pour trouver des solutions qui conviennent à la fois à la Nouvelle-Calédonie et à l'État, surtout dans l'intérêt des Calédoniens.
Ce budget 2026 doit maintenant être présenté aux élus du Congrès, et ce, d'ici la fin du mois de janvier ou au début du mois de février.
Et dans ce contexte, Léo, les fonctionnaires ne feront plus de pont cette année. Le gouvernement a pris la décision de supprimer les jours chômés. La seule date préservée était le vendredi 2 janvier. Maintenant qu'elle est passée, il n'y aura plus en 2026 de pont.
Non, les fonctionnaires travailleront normalement le jeudi 15 mai et le lundi 13 juillet. Il s'agit de ramener plus d'équité entre le public et le privé et de faire des économies. C'est ce que nous a dit Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement.
Sur la question des jours chômés, donc c'est une suppression pas de jours fériés, une suppression de jours chômés. Ça fait partie des mesures d'économie pour la Nouvelle-Calédonie, une question d'équité également avec le secteur privé. On le fait pas par gaieté de cœur, on le fait pour permettre à la fonction publique de continuer à avoir une rémunération, parce qu'on est dans une situation qui est compliquée. Aujourd'hui, on boucle le budget de la Nouvelle-Calédonie avec des prêts de l'État à hauteur de 300 millions d'euros. Donc on doit aussi nous faire des réductions de dépenses publiques. On est à une centaine de millions d'économies avec cette mesure. Mais aujourd'hui, on est dans une nécessité de faire des réformes et parfois un peu douloureuses. C'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait toujours.
Du côté des syndicats, la mesure fait réagir. Dans un communiqué, la Fédé accuse le gouvernement de répondre aux revendications du MEDEF, qui, je le rappelle, avait proposé cette suppression des ponts pour l'administration dans son projet NCECO. Pour Steve Territeaou, le secrétaire général de la Fédé, il y avait d'autres mesures plus prioritaires.
Aujourd'hui, dire qu'on est pour ou qu'on est contre, la véritable question, c'est plutôt de se dire est-ce que cette mesure était-elle nécessaire. Mais juste pour information, on a eu un comité supérieur de la fonction publique le 30 décembre, durant lequel on devait travailler sur la suppression des avancements. C'est une mesure qui pourrait apporter beaucoup plus. Et il faut savoir que ces mesures-là, elles ont été enlevées des discussions à l'initiative du gouvernement. Il faut aussi savoir ce qu'on veut. Donc oui, il y a des efforts à faire, mais faisons les bons efforts et faisons-les ensemble.
L'UTCFE-CGC réagit également et déplore le manque de concertation préalable avec les partenaires sociaux. Christophe Coulson, secrétaire général du syndicat, ne comprend pas cette décision.
Je ne la comprends pas parce qu'il n'y a pas eu de concertation du tout. La CFE-CGC a fait un courrier au président du gouvernement et au commissaire pour leur solliciter un rendez-vous afin de pouvoir échanger sur le sujet. Bien évidemment qu'à ce stade, c'est compliqué de soutenir un tel arrêté. Il y a des choses qui peuvent s'entendre, c'est sûr, mais je voudrais bien connaître avant tout la motivation de cette décision. Et à partir de là, je pense qu'effectivement, il y aura potentiellement une négociation qui va se mettre en œuvre.
Une réforme qui concerne donc les jours chômés et non pas fériés. Il y a toujours 12 dates inscrites comme fériés en 2026. La prochaine est le lundi de Pâques.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici tout d'abord notre question du jour. Approuvez-vous la décision du gouvernement de supprimer 2 jours chômés dans la fonction publique en 2026? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1. Si vous ne l'approuvez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Je vous donne la réponse à la question d'hier. 57% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que 2026 sera l'année de la reprise de l'économie. Ils sont donc 43% à penser que ce ne sera pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et enfin, avant de refermer cette page, je vous rappelle que nous avons entamé en début de semaine notre série de rétro de l'année 2025. On vous a tout d'abord proposé la rétro de l'année en Nouvelle-Calédonie, hors politique. Hier midi, vous avez pu entendre Jean-François Bodin résumer l'actualité 2025 en métropole. Et aujourd'hui, place à ce qui a fait l'actualité à l'international l'an passé. Des rétrospectives qui sont disponibles en réécoute sur notre site internet rrb.nc. 6h passées de 45 minutes, la rétrospective 2026 de l'actualité internationale sera dense à n'en pas douter avec cette partie de Monopoly puisque Donald Trump veut racheter le Groenland.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La Mutuelle du Nickel est heureuse de vous accueillir dans son nouveau centre au Pic à Sèvres Jacques-Yécaoué. Venez découvrir votre nouvel espace santé avec les opticiens, l'audition et l'ophtalmologie mutualiste, ouvert à tous les mutualistes. La Mutuelle du Nickel, votre santé, notre priorité.
étoile pied au meilleur prix, c'est encore et toujours chez Cheval Distribution. Jusqu'au 25 janvier, ne ratez pas nos prix imbattables. Sur les croquettes chiens Wolpi Croc 18 kg seulement à 3795 francs et Wolpi Tonic 18 kg à 3995 francs chez Cheval Distribution.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal est tout d'abord cette course-poursuite en plein milieu de l'océan Atlantique. La marine américaine a annoncé avoir arraisonné un pétrolier battant pavillon russe au large de l'Islande. La Maison-Blanche, qui s'est ravisée puisque le pétrolier est sous pavillon, dit actuellement Washington, est sans pavillon. Une traque qui a duré 15 jours et qui a commencé dans les Caraïbes. Ce tanker intercepté appartiendrait à la flotte fantôme russe et aurait tenté de se ravitailler au Venezuela. Arthur Delaborde pour Europe 1.
L'affaire a démarré le mois dernier quand les gardes-côtes américains ont tenté d'arraisonner le pétrolier en mer des Caraïbes. Le navire refuse d'obtempérer. Cap au nord, direction l'Atlantique. Traque de 15 jours en pleine mer. Ce tanker, le Marine Ra, est sous sanctions américaines. Washington l'accuse d'appartenir à une flotte fantôme qui contourne les sanctions pour transporter du pétrole pour l'Iran, la Russie et le Venezuela. Passé sous pavillon russe, il est repéré au large de l'Islande. Moscou dit avoir mobilisé un sous-marin et une escorte navale pour le sécuriser et l'acheminer vers la Russie. Mais les gardes-côtes américains interviennent avec le soutien du Royaume-Uni. Le pétrolier est saisi, escorté vers les États-Unis. Peu avant, un autre navire sans pavillon avait été intercepté dans les Caraïbes. Message de Washington, le blocus du pétrole vénézuélien s'applique partout dans le monde. Moscou affirme suivre la situation avec inquiétude. Et ce n'est sans doute pas un cas isolé. D'autres tankers sanctionnés sont récemment passés sous drapeau russe. C'est une guerre discrète, une guerre de l'énergie qui se joue loin des côtes.
Quant à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, il a indiqué qu'il rencontrerait la semaine prochaine des responsables danois au sujet du Groenland. Marco Rubio qui a réitéré les propos de Donald Trump qui envisagerait plusieurs options pour accueillir le Groenland, y compris, dit-on, des moyens militaires. Quant à la porte-parole de la Maison-Blanche, elle déclare que le président américain étudie activement la possibilité d'acheter le Groenland. L'actualité en métropole est Bruno Retailleau qui faisait sa rentrée hier soir pour nous. Le président des Républicains a présenté les propositions sur le travail qui devront figurer dans le programme présidentiel du futur candidat de la droite. Le but était en fait de clarifier les lignes économiques des Républicains. Bruno Retailleau appelle pour cela à sortir du modèle social étatiste avec des mesures que la droite réclame depuis un certain temps, comme par exemple le plafonnement des allocations sociales à 70% du SMIC ou encore les 15 heures de travail hebdomadaire en contrepartie du RSA. L'objectif, c'est de tourner la page d'un modèle économique à bout de souffle, selon Bruno Retailleau.
C'est un modèle qui a reposé sur deux piliers qui ont été deux grands mensonges. La dévalorisation du travail, travaillez moins et vous vivrez mieux. Grand mensonge, la retraite à 60 ans, les 35 heures, tant qu'on a pu s'endetter. Mais désormais, la fête est finie. Le pouvoir d'achat ne pourra plus venir de l'argent de l'État, il ne pourra venir que de la création de richesses, du travail.
Bruno Retailleau qui assume d'inspirer du programme des campagnes de François Fillon en 2016, à laquelle il avait d'ailleurs participé. Son but, à défaut d'avoir tranché la question de l'incarnation, c'est de bâtir un projet solide qui pourrait être repris par le futur candidat de la droite. Alors franchira-t-il le cap d'une candidature? Lui, on a en tout cas longtemps affirmé qu'il n'avait pas le virus de la présidentielle, même si, selon plusieurs proches, l'idée mûrit dans son esprit. Le dernier adieu à Bébé. Les obsèques de Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre 2025, ont été célébrées cette nuit à Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Tropez. Une cérémonie en présence de nombreuses personnalités comme Marine Le Pen, Mireille Mathieu, Paul Belmondo, Jean-Luc Reichmann ou encore l'activiste écologiste Paul Watson. Son cercueil en osier blanc et marron a été accompagné au cimetière marin par les Gypsy Kings, puis les fans ont pu approcher la sépulture.
Très intimiste et à son image. Peu de prise de parole, mais c'était très, très touchant.
On ne pensait pas pouvoir accéder jusqu'à sa tombe. Et là, on a réussi. Et beaucoup de gens l'aimaient, beaucoup de gens sont autour.
Elle était un peu notre fée, c'est celle qui nous apportait bonheur. Et ce bonheur, ben, on a voulu le partager avec elle et avec vous aujourd'hui.
Et dans le cimetière, près de la tombe, a été apposée une affiche avec inscrit « Merci Brigitte » où l'on voit l'actrice en 1977 avec un bébé phoque. Il est 6h passé de 49 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment cette intervention du NEDEX à Ducos.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Sauvant Carrelage, c'est le spécialiste des revêtements de sol et murs, intérieurs ou extérieurs, depuis plus de 50 ans. Carrelage, sol souple, pierre naturelle, margelle, dalle. Sauvant Carrelage, 16 rue Fernand Forest, à Ducos. Plus d'infos sur sauvantcarrelage.com ou sur Facebook Sauvant NC.
Faramédé, si loin, mais si près, décompressé avec le Maridé, réservez votre place sur amedeisland.com.
Dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
C'est avec nos meilleurs vœux, santé, bonheur et de belles découvertes locales que se tiendra le premier marché de mamie à Farino ce dimanche 11 sur la place de la mairie de 8h à 12h. Venez profiter d'une ambiance conviviale et chaleureuse au cœur du village. Producteurs et artisans locaux vous attendent avec des produits frais, authentiques et de qualité. C'est l'occasion idéale de soutenir le savoir-faire local et de partager un moment agréable en famille ou entre amis. Flânez entre les stands, échangez avec les exposants et savourez les saveurs du terroir. Le marché de Farino, c'est bien plus qu'un marché, c'est un moment de rencontre et de partage. Venez nombreux ce dimanche à Farino.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de l'actualité du territoire, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et un obus de la Seconde Guerre mondiale découvert hier matin à Ducos. Il s'agit d'un engin explosif. À la demande des spécialistes NEDEX, neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs, les patrouilleurs de la police nationale ont immédiatement mis en place un périmètre de sécurité à 200 mètres autour du site. Les précisions de l'adjudant-chef Hubert du groupe régional d'intervention du NEDEX.
Au niveau de la baie de Coutio et de l'entreprise au niveau de Ducos. Alors c'est une mission qui a été ramenée sur un, c'était trouvé sur un chantier à l'extérieur et c'était ramené directement dans l'entreprise quoi, de traitement de des matériaux. Donc nous on s'est déplacé, on est arrivé sur zone, on a vu la munition qui était encore très dangereuse puisque toutes les sécurités étaient enlevées. Donc il s'agissait là d'un munition historique de la Deuxième Guerre mondiale, un obus de 60 mm américain. On a déplacé la munition sur un court trajet et après on a procédé à la neutralisation en fait et on a pu séparer les éléments dangereux de cette munition.
L'adjudant-chef Hubert qui rappelle les règles de sécurité si vous découvrez un objet suspect ressemblant à un engin explosif ou à une munition.
Les gens ont très bien réagi. Donc dans un premier temps, si on peut, on ne touche pas. Donc on prend une photo, on prend une photo à proximité, à hauteur de vue. Hein. Et après une photo d'ensemble pour se dire, la munition, elle est ici. Alors du coup, on ne la déplace pas, ça, c'est une certitude. Si on peut baliser pour prévenir, attention, ici c'est dangereux, on n'hésite pas à le faire. Et après, il faut appeler les services compétents. Alors, les services compétents, c'est les forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie. Du coup, c'est soit la police, soit la gendarmerie. Appeler le 17. Donc, eux, ils vont venir sur zone, constater, et ils vont mettre en place un cordon de sécurité. Et à partir de là, il y a une procédure qui monte jusqu'au haut commissariat, qui nous missionne pour pouvoir intervenir. Nous, on est présents toute l'année, 24 heures sur 24.
Et pour cette intervention, les pompiers de la sécurité civile, la police nationale et la gendarmerie sont intervenus sur place pendant près de 2 heures. En bref, des travaux sur le pont de Dimbéa à compter d'aujourd'hui. Une opération de remplacement du joint de chaussée et de réfection de la chaussée va se dérouler dans cette zone sur la voie express. Conséquence, les voies de circulation seront réduites pendant la durée des travaux. Des réparations provisoires avaient déjà été réalisées en mai et en septembre 2025 afin de garantir la sécurité des usagers dans l'attente d'une intervention pérenne. Un chantier d'un mois entièrement financé par la province sud pour 58 millions de francs. Il est 6h53, on va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et notamment les affiches des quarts de finale du BNC Tennis Open.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
Voilà, bouge pas.
Oui. Mais c'est qui sourit à chaque flash? Une vraie petite star.
Bah oui, c'est pour ça que je vais participer au casting Huggies et Géry 2026. On a jusqu'au 1er février pour envoyer sa candidature.
Ah, j'ai toujours su qu'on aurait une star dans la famille. Je vais direct sur le Facebook Sakebon NC pour voir comment participer.
Et si toi aussi tu inscrivais ton bébé pour être les Géry Huggies 2026.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec un mot du Dakar, coup double après la quatrième étape pour deux pilotes. En moto pour l'Espagnol Tosha Charena et en auto pour le Sud-Africain Entlategan, Léo Fichou.
Oui, en moto d'abord, après avoir remporté la troisième étape, Tosha Charena s'est également imposé sur la quatrième. L'Espagnol prend donc la tête du classement général. Deux Américains complètent le podium, Ricky Brabec et Skyler Hawes, le Français Adrien Van Beveren. Et neuvième en auto, Entlategan a assommé la concurrence. Le Sud-Africain remporte l'étape, la quatrième, et devient le nouveau leader du classement général. Côté français, Mathieu Serradori est cinquième, Sébastien Loeb huitième.
Et puis on termine avec le sport sur le territoire. Léo, on connaît les affiches des quarts de finale du BNC Tennis Open.
Oui, puisque tous les huitièmes de finale se sont joués hier jusqu'à très tard dans la soirée. On notera que 5 des 8 têtes de série sont au rendez-vous, notamment l'Australien numéro 1 du tournoi Jordan Thompson et le Canadien numéro 2 Liam Draxel. Côté français, Clément Tabur et Arthur Géa font office d'outsider. Le premier qualifié, c'était Michael Zink, tête de série numéro 6 de ce Challenger. Il s'est imposé en 2-7, 6-2, 6-1 sur le français Dan Haddad.
Je me suis entraîné avec lui dans la semaine. C'est un très bon joueur, mais je trouve que j'ai quand même très bien joué aujourd'hui. J'espère pouvoir maintenir ce niveau-là lors des prochains matchs.
L'Américain sera opposé à Clément Tabur en quart de finale. Le vainqueur du BNC Catherine Bonnet la semaine dernière a fait tomber en 3-7, 6-7, 6-4, 6-4. Notre tricolore, tête de série numéro 3 du tournoi, Titouan Droguet.
Je pense que j'ai plutôt bien retourné. C'était la clé du match, voilà, de l'embêter sur ses jeux de service, tous ses jeux de service, et pour attendre l'occasion. Et j'ai pas réussi à la saisir au début, mais j'ai gardé le cap et j'ai réussi à la saisir à la fin. Et c'est, je pense que c'est ce qui a fait la diff. Physiquement, je me sens bien. C'est juste, ouais, la chaleur, c'est, ça met quand même un petit coup de dur. Et après, non, mais je suis là pour ça, de toute façon, que ce soit dur. Et j'ai réussi à prendre du plaisir dans la difficulté aujourd'hui. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi.
De son côté, Youri Rodionov n'a pas tremblé. La tête de série numéro 5 était opposée à l'Américain Christian Langmo. L'Autrichien a tenu son rang, une victoire en 2-7, 6-3, 6-4, qui lui permet d'être une nouvelle fois au rendez-vous des quarts de finale. Franchement, je suis heureux d'être en quart de finale à Nouméa. L'année dernière, j'étais en demi. Cette année, j'essaye de faire la même chose ou mieux, si possible. Les conditions aujourd'hui étaient assez difficiles. C'était très chaud, très humide. Mais bon, je suis heureux d'avoir réussi à gagner en 2-7 et d'avoir économisé de l'énergie pour demain. Au prochain tour, Youri Rodionov aura fort à faire. Ce sera cet après-midi. Il défiera Jordan Thompson, tête de série numéro 1 du tournoi. L'Australien qui a battu Nicolas Moreno de Alboran, issu des qualifications en 2-7, 6-4, 6-3. Le second français encore en lice, c'est donc Arthur Géa qui a dû batailler pour réaliser une belle performance, battre en 2-7, 7-6, 6-3, l'Argentin Facundo Diaz Acosta. On écoute le français.
C'était très dur, j'étais très tendu, mais c'était un gros match, très physique, et ça s'est bien passé à la fin pour moi, mais c'était pas facile, ouais, tout le match. Oh, ça va, je suis arrivé longtemps avant, j'ai joué l'exhibe la semaine dernière, donc... ça aide beaucoup. Après, c'est clair que bon, ça change, mais de jouer deux nuits, c'est déjà beaucoup plus simple que hier quand j'ai joué deux journées.
Arthur Géa qui sera opposé à Liam Draxel, le Canadien tombeur de Moerani Bouzige. En huitième de finale, Bouzige qui était le finaliste de l'an passé. Le Canadien s'est imposé 6-4, 6-2. Et puis dans le dernier quart de finale, duel 100% australien entre Bernard Tomic, tête de série numéro 8, et Blake Ellis. Un mot du double pour terminer, Nicolas. Pas de surprise dans le tableau puisque les quatre têtes de série sont en demi-finale. On retrouve comme en simple Jordan Thompson associé à Pierre Hugerbert. On écoute le français après leur victoire en quart de finale hier soir.
C'est cool d'avoir pu faire ce match, d'avoir pu passer du temps avec Jordan et on est content d'avoir réussi à gagner parce qu'en face ils ont bien joué aujourd'hui, ils ont été bons et effectivement j'espérais pouvoir faire mieux sur les débuts de tournoi en simple, malheureusement ça l'a pas fait mais voilà, plutôt content d'avoir gagné aujourd'hui.
Les rencontres du Challenger de Nouméa débuteront ce jeudi à 16h30 sur les cours du Wentoro. 6 matchs sont au programme, les 4 quarts de finale du simple et les 2 demi-finales du double.
Merci beaucoup Léo Fichou pour ce point complet sur ce BNC Tennis Open. Et je rappelle qu'on vous retrouvera ce soir entre 17h et 17h30 pour notre émission spéciale en direct des cours du Wentoro.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce sont les prévisions du Centre Météo France. Pas de vigilance particulière, le voile d'altitude se fragmente ce matin et le temps deviendra plus lumineux. Le ciel est plus nuageux sur l'extrême sud des hauts Loyautés avec la présence de quelques averses isolées. L'Alizée orientée sud-est pour ce matin entre 15 et 20 nœuds en général. Cet après-midi, le temps évoluera peu avec un ciel assez nuageux aux Loyautés et sur l'extrême sud avec de rares averses. Alors le soleil, puis les nuages présents sur le relief s'étalant vers les côtes. L'Alizée orientée sud-est pour cet après-midi, 20 à 25 nœuds, cette fois 30 à 35 nœuds qui concerne l'ouest, le sud de la côte est et les Loyautés. Il restera entre 15 et 20 nœuds sur le nord-est, l'extrême nord et le sud, entre 30 et 33 degrés pour les températures. Ce sera en général, Nicolas.